Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre étude, notre série très importante concernant croire, comme le dit l'Écriture sainte. Nous arrivons à l'étude numéro 29 et notre exposé aujourd'hui sera notre attitude dans la prière. Notre attitude dans la prière. S'il vous plaît, veuillez noter les très nombreuses citations bibliques. C'est important pour que plus tard, vous puissiez quand même contrôler si ce que on vous a fait entendre, que c'est vraiment la parole de Dieu telle qu'elle est écrite et non pas une philosophie personnelle ou quelque chose de biaisé, ce qui serait très grave. Tout d'abord, chers amis, nous avons la prostration. Et bien, dans la prière, nous entrons dans la salle du trône de la majesté d'en haut. Donc, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Abraham, qui était notre exemple dans l'importunité, il est également notre modèle d'humilité. Tandis qu'il poursuivait avec persistance son intercession, voyez avec quel respect il désapprouvait son audace. Voici ce qu'il a dit. « J'ai osé parler au Seigneur, moi, qui ne suis que poutre et cendre. » Et David, c'était pas n'importe qui. Lorsqu'il se présentait devant le Seigneur, il dit « Qui suis-je, Seigneur l'Éternel, qui suis-je ? Et quelle est ma maison ?» Ainsi que Moïse, Aaron, Daniel, oui, et le Seigneur lui-même. Vraiment, tous sont même tombés sur leur face en priant. Notez Ecclésiaste, chapitre 5, verset 2. Genèse, chapitre 18, verset 27. Toujours la Genèse, chapitre 18, verset 30 à 32. Chapitre 32, versets 25 et 26, 2 Samuel, chapitre 7, verset 18, et Saint Matthieu, chapitre 26, verset 39. Ensuite, nous avons la repentance. Le regret pour notre péché avec la confession de nos fautes devrait toujours aller de pair avec notre approche de Dieu, en particulier dans la prière d'intercession. Écoute-moi, et je parlerai. Je me condamne, et je me repens. Je me repens sur la poussière et sur la cendre. C'est ce que disait Job. Et Moïse dit, « Ah, ce peuple a commis un très grand péché. Pardonne maintenant leur péché. » Et David dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi, car je reconnais mes transgressions. » La prière de David, de manière inspirée, elle était en quelque sorte l'intercession pour l'adultère spirituel d'Israël, ainsi que le meurtre du Fils de Dieu. Daniel plaida de la même manière. Il a dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants. Et là, notez les citations suivantes, Job 42, versets 4 à 6, Exode chapitre 32, versets 31 et 32, Psaume, chapitre 51, versets 1 et 3, Daniel, chapitre 9, verset 4, chapitre 5, verset 2. Je répète, Daniel, chapitre 9, verset 4 et 5. Donc, Daniel, chapitre 9, verset 4 et 5. Ensuite, 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 8 à 11. Et la première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Je dois faire attention de ne pas vous donner une fausse indication, ce qui serait quand même grave. J'essaye de me donner la peine d'être très, très correct et précis. Nous devons également avoir de l'assurance quand nous prions. Une sensation d'indignité et de péché, cela n'est pas une raison pour se décourager. David a prié, il a dit « Pardonne mon iniquité, car elle est grande ». La confiance dans notre acceptation est absolument essentielle. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie vraiment que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Étant justifiés, nous avons la paix. Ayant la paix, nous avons accès à la grâce. Nous avons de l'audace et accès par la foi en lui, en Dieu. Le sang, la grâce, la foi nous introduisent dans le lieu très saint et dans la présence très sainte. Notez Psaume, chapitre 25, verset 11, Genèse, chapitre 18, verset 33, chapitre 32, verset 31, Daniel, chapitre 12, verset 13, Proverbe, chapitre 15, verset 29, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13, et Jacques, chapitre 5, verset 16 à 18. Je me dois, chers amis, de rectifier une chose assez importante. Nous pourrions être sans commettre des péchés, surtout des péchés intentionnels, en vivant en dehors du monde reclus. Or, voyez-vous, une personne qui est continuellement confronté dans ce monde hyperactif et parfois même violent, c'est malheureusement un rêve pieux et naïf de croire que nous pouvons supposer être des saints. J'ai parfois commis l'erreur de supposer cela naïvement et je le regrette. La raison pour laquelle de rester humble, nous devons rester humbles et de reconnaître que nous avons besoin du pardon de celui qui a dû aller jusqu'à la croix, verser son précieux sang pour me racheter de toute mon impureté et de tous mes péchés. La soumission de notre volonté à la volonté de Dieu, cela doit être absolu. Bien que cette volonté ne soit pas arbitraire, elle est la sagesse, elle n'est pas un jugement froid et impartial, mais c'est l'amour. L'amour agapé, l'amour divin. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, je dis bien selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Mon Père écoute toujours, et toujours et encore. Non pas ma volonté à moi, jamais, mais que la tienne, ô Dieu, se réalise, soit exaucée. L'apôtre Paul se réjouissait dans cette situation. La volonté de Dieu ne voulait pas ôter les chardes dans sa chair, mais elle changea la souffrance, sa souffrance, et je peux dire, là, je n'ai pas tout à fait les mots qu'il faut. Que devrait vraiment utiliser l'apôtre Paul d'autre que l'humilité qu'il avait, une humilité véritable, une soumission parfaite. Notez s'il vous plaît, 1 Jean, chapitre 5, verset 14, Saint Luc, chapitre 22, verset 42, Saint Matthieu, chapitre 26, verset 39 et 42, Saint Jean, chapitre 11, verset 42, et 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 8 à 10. Ensuite, nous avons l'attente. Il est dit dans les Saintes Écritures, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance », c'est ce que dit le psalmiste, « et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. » Ici, l'ardeur est associée à l'attente. C'est la prière fervente du juste qui a une grande efficace. Et les hommes devraient toujours prier et ne jamais, jamais se relâcher. Et bien que la réponse parfois tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Notre attente appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, car nous savons que nous avons reçu de lui ce que nous avons demandé. Psaume 40, verset 1, Habakkuk, chapitre 2, verset 3, Hébreux, chapitre 11, verset 1, Romains, chapitre 5, verset 1 et 2, et Éphésiens, chapitre 3, verset 12. Ensuite, nous avons le repos. Il est dit, reposez-vous sur le Seigneur. Je répète, reposez-vous sur le Seigneur et attendez-vous à lui, car il le fera arriver. Ne soyez donc pas anxieux, ne soyez pas plein de doutes ou impatients. Nous devons lutter dans la prière, mais bien nous reposer ensuite. Par exemple, Abraham, il retourna chez lui et le soleil descendit sur Jacob. Daniel poursuivit son chemin et il se reposa. Abandonnez votre fardeau à ses pieds, aux pieds de Jésus, et cela suffit. Notez Psaume, chapitre 62, verset 5, Saint Matthieu, chapitre 11, verset 28, Hébreux, chapitre 11, verset 1, Romains, chapitre 4, verset 17, et la première épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 14 et 15. Et je prends sur moi d'ajouter ceci. La longue expérience de ma vie, cela m'a montré que nous pouvons avec humilité demander au Seigneur de bénir l'infirmière, le médecin, et de guider même les mains du chirurgien, et même pour que le médicament soit efficace. Un célèbre évangéliste avait dit avec beaucoup d'autorité à une maman dont l'enfant était fortement diabétique, de jeter l'insuline ainsi que la seringue par la fenêtre et cela par la foi, et l'enfant serait guéri. Et c'est ce que cette maman a fait par la foi, surtout par la foi de l'évangéliste. Or, l'enfant est mort un jour et demi plus tard. Et cette maman a de justesse, et même avec un bon avocat, elle a pu éviter qu'on la mette en prison. Voyez-vous, quand j'avais 45 ans, je reconnais humblement que j'aurais fait la même erreur que cet évangéliste, mais plus maintenant, à 89 ans, parce que l'expérience est devenue différente. Une autre chose très importante, nous ne devons jamais regarder en arrière après avoir choisi le royaume. Lisez Saint Luc chapitre 9, versets 61 et 62. Là, il est dit, un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur. » Mais, permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Saint Luc chapitre 9, versets 61 et 62. Par exemple, écoutez la suite. La femme de Lot, elle a regardé en arrière. Et par conséquent, elle périt. Ceci illustre combien est sérieuse la situation que nous examinons. Regarder en arrière, cela peut, dans certains cas, être pour nous une occasion agréable et heureuse. Cela peut être une composante de la joie d'une personne dans ses vieux jours, et de pouvoir regarder en arrière, de se rappeler et de se souvenir des moments agréables avec des amis et des bien-aimés dans les années précédentes. Nous connaissons tous la joie chaleureuse que nous ressentons lorsque nous considérons certains instants et les partageons avec d'autres, tels que, par exemple, les expériences agréables de notre enfance, le moment de notre conversion, les années passées avec nos parents à la maison, nos fiançailles et notre mariage. Certaines expériences spirituelles qui étaient remarquables nous réjouissent, et cette capacité donnée par Dieu de regarder en arrière peut être une expérience agréable de diverses manières, mais il existe une sorte de regard en arrière qui déplaît à Dieu et qui entraînera la condamnation. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux, c'était un ange, il dit « Sauve-toi, sauve-toi pour ta vie, et surtout ne regarde pas derrière toi. » Or la femme de Lot regarda en arrière, et elle est devenue une statue de sel. Genèse chapitre 19, versets 17 et 26. Vous pourriez demander, voyons, pourquoi un jugement aussi sévère pour un acte apparemment aussi insignifiant de sa part? Oui, pourquoi Dieu l'a-t-il jugé aussi durement pour avoir simplement jeté un regard en arrière vers la ville de Sodome? Jésus répond lui-même à ceci en Saint Luc, chapitre 9, verset 62. La femme de Lot, en regardant en arrière, elle donna la preuve qu'elle n'était pas tout à fait digne ou même pas du tout digne du royaume de Dieu. Car le péché de la femme de Lot, cela ne fut pas le simple fait de regarder en arrière. Mais cet acte était le témoignage, écoutez bien, qu'elle ne voulait pas quitter la vilenie, les saletés, les abominations de Sodome, et qu'elle partait contre sa volonté, que son cœur était encore dans Sodome. En cela, elle fut comme les Israélites dans leur désir permanent de retourner en Égypte. Ce fut leur souhait de retourner en Égypte qui révéla la véritable nature de leur cœur et qui ainsi les empêcha d'entrer en terre promise. Extérieurement, ils avaient quitté l'Égypte, on est d'accord. Mais dans leur cœur, ils n'avaient jamais oublié leur péché et leurs nombreuses idolâtries. Leur cœur était encore autant attaché au monde au cours de leur marche vers la terre promise qu'il ne l'avait été jusqu'ici, était par exemple en Égypte. Ils ne pourraient donc jamais entrer en Canaan. Et ce fut impossible tout simplement parce que leur cœur n'avait jamais oublié l'Égypte. Lorsque l'appel de Dieu nous demande de quitter, par exemple, tout ce qui représente Sodome ou l'Égypte, ou d'aller, on peut dire, de l'avant avec le message du royaume, eh bien, Dieu ne s'attend pas à ce que nous venions lorsque nous sommes prêts ou lorsque nous avons satisfait tous les désirs de ceux qui sont chez nous ou après que nous ayons terminé quelque chose à laquelle nous nous intéressons beaucoup. Mais nous devons venir tout de suite sans attendre. De nombreux prétendus, je dis bien prétendus disciples, ont mal interprété le sérieux de l'appel de Jésus, pensant qu'ils peuvent suivre Jésus selon leurs propres conditions. Et cela simplement parce qu'ils ont accepté l'appel mentalement seulement. Et voici comment la femme de Lot fut induite en erreur, car elle pensait qu'elle avait échappé au jugement de Sodome parce que son corps avait quitté la ville perdue, mais parce que les affections de son cœur, c'est ça, les affections de son cœur étaient encore et toujours à l'intérieur de Sodome. Alors elle a subi aussi son sort. L'avertissement de Jésus est très clair. Aussi longtemps qu'un cœur est encore dans Sodome, il ne s'en est pas encore échappé. De nombreuses personnes croient, par exemple, qu'elles ont échappé au jugement futur en se plaçant sous la protection de l'adhésion à une église. Pourtant, leurs cœurs sont encore dans Sodome. Leurs affections sont toujours dans les choses de ce monde. Donc, de nombreuses personnes s'abusent elles-mêmes. Elles ont entendu l'appel de Dieu d'échapper au jugement à venir sur ce monde. Elles ont mis la main à la charrue, mais au lieu de labourer, elles regardent en arrière en essayant de se raccrocher à d'anciennes fréquentations et d'anciennes manières, parce que c'est là que se trouve leur cœur. Voyez-vous, en Saint-Luc, chapitre 17, verset 32, dans le contexte qui parle de son retour et du jugement qui tombera sur des individus aussi imprudents et induits en erreur, eh bien Jésus, il donne cet avertissement très sérieux. Souvenez-vous de la femme de Lot. À partir de cet avertissement, il est donc très clair que Jésus s'attend à ce que nous voyons la portée spirituelle de notre péché qui fut de regarder en arrière. Lorsque Jésus a lancé son appel aux disciples, il inclut toujours dans cet appel cet avertissement « Ne regardez pas en arrière ». Le souci de Jésus est que nous ne cherchions pas à brûler la chandelle par les deux bouts, cherchons à préserver une vie dans ce monde et en atteindre une autre dans l'autre monde en même temps. Ce disciple, en Saint Luc, chapitre 9, verset 61, ce disciple n'avait qu'un seul défaut dans son engagement, mais il fut fatal. Il dit, « Seigneur, je te suivrai, mais quoi ?»« Mais quoi ?» demande Jésus. Et voici la réponse. « Eh bien, lorsque j'aurai fini cette tâche, tellement importante, si le coût n'est pas trop élevé, ou lorsque j'aurai mis en ordre toutes mes affaires et réglé tous mes problèmes, il existe certaines personnes, oui, qui sentent qu'elles pourraient donner toutes leurs possessions terrestres et qu'elles pourraient s'abstenir de toute expression de perte si l'occasion se présentait. Mais donner une telle consécration, une réponse si totale à l'appel de Jésus, selon lequel elles ne doivent jamais regarder en arrière, quel prix à payer, c'est trop demandé. Mais le maître s'arrête là, aurait essayé d'adoucir ou d'interpréter ses demandes pour les rendre plus acceptables aux autres, et à la fois cela peut devenir dangereux et surtout trompeur. Voyez-vous, la plupart d'entre nous ont appris que la chrétienté ne consiste pas à abandonner quelque chose, mais que c'est de recevoir un cadeau de la part de Dieu. Jésus met fin à cette petite erreur pieuse par ses enseignements sévères sur la vie de disciple. La vie de disciple envers Jésus, c'est de toute abandonner, c'est oublier toute autre chose. Il nous dit qu'elle nous coûtera tout. Voilà pourquoi les multitudes religieuses se détourneront des enseignements de Jésus à propos d'un engagement total. Mais que Dieu soit loué, elles ne se détourneront pas toutes. Gloire à Dieu. Une dame est allée voir son pasteur pour qu'il la conseille et qu'il puisse prier pour elle. Il semble que son mari, qui n'était pas sauvé, était très contrarié par son assiduité à ses réunions, et quelque temps après, son opposition s'accrut de sorte qu'il lui demanda même non seulement de ne plus se rendre aux réunions, mais également de renoncer totalement à sa foi chrétienne. Il lui annonça qu'il était le chef de leur foyer et que de ce fait, elle devait lui donner toute allégeance à lui plutôt qu'à Christ. Il était légèrement macho, je plaisante. Et il l'avertit qu'elle devait faire un choix entre les deux. Sa réponse à la dame fut très simple. Mais je n'ai aucun choix à faire. J'ai servi Jésus depuis que je suis petite fille. Je ne peux pas le renier maintenant. Dans cette humble confession de foi, elle paya joyeusement le prix d'une vie de disciple, refusant de regarder en arrière après avoir mis la main à la charrue. Mais, chers amis, avant une telle décision, qui n'est qu'un aspect de la vérité biblique, il faut bien le dire, il faudrait d'abord que cette femme ait plusieurs membres de son Église. Prie avec foi, on appelle cela intercéder pendant une période de temps afin que Christ le Seigneur touche le cœur de cet homme, son mari. Voyez-vous la difficulté, mais aussi la vérité. L'expression « avoir un amour total pour Christ », cela veut dire, lisez Saint-Luc, chapitre 14, verset 26, ça veut dire si quelqu'un vient à moi, s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Saint Luc 14, verset 26. Lire cela ainsi, ça peut sembler terrible, voire même incompréhensible. Pour moi, le premier. Donc ceux qui font l'expérience d'une vie plus profonde, plus riche dans l'Esprit Saint, accorderont la même dévotion à Christ que celui-ci accordait au Père. C'est-à-dire, Jésus accordait au Père un amour total. Christ doit être placé avant tout le reste, y compris soi-même. Tôt ou tard, Christ confronte ceux qui reçoivent la plénitude de son esprit dans ces derniers jours avec les exigences totales d'une vie de disciple et d'un engagement total envers lui. Notre amour et notre dévotion envers lui, comparés à l'affection que nous avons pour ceux qui nous sont les plus chers, doivent être comme de la haine en comparaison. Il dit, lorsque nous sommes forcés de choisir entre lui et quelque chose de moindre, alors nous devons haïr l'alternative et le choisir, lui, Jésus-Christ. En fait, tant que nous n'avons pas réalisé que nous n'avons vraiment aucun choix lorsque quelque chose ou quelqu'un nous est offert comme alternative par rapport à Christ, alors nous ne connaissons pas encore la signification biblique de la vie de disciple. De plus, nous ne pourrons jamais aller plus loin avec Dieu tant que nous n'acceptons pas le fait grave que Jésus ne nous permettra pas de partager l'amour et l'affection que nous avons pour lui avec les autres ou avec les autres choses de ce monde, car il est un Dieu jaloux. Les théologiens et les commentateurs nous donneront des milliers de raisons pour nous expliquer pourquoi les paroles de Jésus « haïr père, mère, mari et enfant » ne doivent pas être prises au sens littéral, parce que cela contredirait ces autres enseignements dans l'Écriture sainte qui nous disent d'aimer même nos ennemis et que Dieu est amour. Mais un tel raisonnement est en lui-même une contradiction et même une tromperie. Oui, puisque c'est Dieu lui-même qui nous dit à la fois d'aimer nos maris et nos femmes, selon Éphésiens chapitre 5, et de les haïr d'un autre côté, selon saint Luc chapitre 14, verset 26. Alors, nous pouvons affirmer avec certitude qu'il ne va pas se contredire, jamais. Donc, les saintes Écritures elles-mêmes nous donneront son sens qui est que nous devons haïr l'alternative à Christ, que nous devons haïr l'alternative à Christ, quelle qu'elle soit. Nous devons bien entendu demander la sagesse, car parfois la lettre seule tue. Mais l'amour, c'est-à-dire la compassion, la charité et la miséricorde dans le vrai sens biblique, cela devrait toujours venir en premier. Il nous dit tout simplement ceci dans saint Matthieu chapitre 10, versets 34 à 37. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Nous devons certainement aimer les autres de manière authentique pour leur bien, mais notre amour et notre dévotion envers Christ ne peuvent pas être partagés avec quelqu'un d'autre où ils seront moindres que ce qu'il exige de nous, c'est-à-dire un amour total. C'est un péché de tenter de partager notre amour, notre temps, nos talents, notre dévotion, notre affection pour Jésus avec des objets de moindre valeur. Et c'est ce qui constitue l'adultère spirituel et qui nous empêche d'aller plus loin avec Dieu. Quelle est, dès lors, la solution? Comment pouvons-nous aimer les autres comme les saintes Écritures nous le demandent et donner en même temps un amour total à Christ? Lorsqu'il nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, il ne veut pas dire par là que nous devons chercher tout le reste en second, mais que nous devons rechercher seulement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, quel que soit l'amour et l'intérêt que nous avons pour les autres et les autres choses au moment de notre conversion à Christ, ils doivent par la suite être une expression de notre amour pour lui, et ils trouveront leur signification et leur accomplissement en lui. Nous ne sommes vraiment des disciples que lorsque nous avons été amenés à voir que notre amour pour les autres n'est qu'une excroissance visible de notre amour pour Christ, selon la première épître de Johannes, de saint Jean, chapitre 4, verset 20, et non un partage de notre amour pour lui avec eux. Et c'est de cette manière que nous pouvons donner un amour total à Christ et aimer les autres en même temps, car c'est dans la consécration totale à lui de toutes nos affections que nous pouvons atteindre et embrasser tous les autres dans cet amour. C'est dans notre tentative égoïste de partager notre amour pour lui avec les autres que nous découvrons que nous ne pouvons ni l'aimer ni aimer les autres comme nous le devrions. Et voici maintenant, chers amis, une très difficile chose, c'est l'abnégation de soi-même. Il est dit en saint Luc, chapitre 14, verset 26, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Saint Luc chapitre 14 verset 26. C'est peut-être l'aspect le plus difficile de son commandement. L'incapacité à renoncer à soi-même est, sans aucun doute, le plus grand empêchement pour un engagement total et pour la vie profonde. On nous a enseigné toute notre vie à développer notre propre image, c'est-à-dire l'amour propre, la confiance en soi, l'assurance, l'indépendance et la conscience. L'autodidacte qui réussit dans la vie sans l'aide d'autrui est hautement respecté dans notre culture. Et un esprit indépendant par lequel on développe la confiance en ses propres capacités, en ses propres sagesses et jugements, cela est considéré avec admiration par la grande majorité des hommes. Il est peu étonnant que dans cette optique de le message de Jésus au sujet de la crucifixion de l'ego provoque une telle crise chez la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. Voyez-vous, l'abnégation de soi est pour beaucoup une telle énigme que même lorsqu'ils acceptent cet enseignement de Jésus et cherchent à le mettre en pratique, eh bien cela se limite généralement à une œuvre de la chair, et cela à cause d'un manque de compréhension de la notion de vie qui veut être une vie crucifiée, qui est vraiment le fruit d'un faux enseignement sur ce thème-là. On doit donc éclairer le point que abnégation et dévouement ne sont pas du tout la même chose. Abnégation, on peut dire renoncement. Cela peut très bien signifier abstention de tel aliment, et cela pour des raisons de santé. Ça veut dire renoncement à des plaisirs ou au superflu, de façon à pouvoir mettre son enfant, par exemple, dans un collège. Le dévouement peut considérer ou consister en la rupture des liens familiaux avec une communauté en vue d'accompagner son conjoint dans un autre état où son emploi sera assuré beaucoup mieux. Pour d'autres, cela peut être arrêté de fumer à cause de la menace du cancer des poumons, etc. Ceci est du dévouement, c'est du renoncement, mais cela n'est pas l'abnégation de soi, c'est pas pareil. L'abnégation de soi, au sens biblique, c'est la mort de mon ego. C'est la crucifixion de la vie et de la volonté personnelle, ou la volonté égoïste. C'est se présenter sur l'autel comme un sacrifice vivant. C'est volontairement remettre à Christ toutes les prétentions de la vie personnelle vécue indépendamment de lui. C'est de soumettre tout entier, corps, âme et esprit, à la souveraineté de Jésus-Christ. L'abnégation de soi et la crucifixion de l'ego dans quatre domaines essentiels de notre vie, ces domaines sont d'une importance extrême dans le maintien de la vie personnelle, et c'est précisément pour cela que s'ils ne sont pas soumis à Christ, on ne peut lui faire un engagement total. Quand Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi et qu'il renonce à lui-même, et s'il ne haït pas même sa propre vie », Jésus fait référence au sacrifice de notre amour pour les possessions, c'est-à-dire pour la position, pour les louanges et pour les privilèges, dans le renoncement à notre amour pour les possessions, nous sommes appelés à placer notre dévouement au royaume avant notre désir de bien matériel. Notez Saint Matthieu, chapitre 6, verset 19 à 34. Et notre passion sur les choses d'en haut et non pas sur les choses d'en bas, terrestres. Colossiens chapitre 3, verset 1. Donc, les biens matériels ne doivent pas avoir l'affection de notre cœur, car bien que nous soyons abondamment bénis avec eux, ils ne sont néanmoins qu'un moyen d'arriver à une finalité et non une finalité en eux-mêmes. C'est se débarrasser de son désir de position importante. C'est obéir au commandement de Jésus à ses disciples de se servir mutuellement, car quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi nous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. L'engagement total, c'est de renoncer à tout désir d'être un chef dans le monde, ou un macho, ou dans les systèmes religieux du monde. C'est de devenir un serviteur dans le royaume de Dieu. L'abnégation, c'est aussi de crucifier le désir d'être loué et d'être très reconnu par autrui. Jésus nous dit que c'est la prière, les aumônes, le jeûne dans le secret qui plaisent à Dieu et qui sont récompensés. Par conséquent, ne faites rien par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Philippiens chapitre 2, verset 3. Renoncez à l'amour du privilège. Ça, c'est renoncer au désir de défendre soi-même, ses droits personnels, son nom, sa position et même ses biens. Tant que nous ne voulons pas prendre au pied de la lettre l'enseignement de Jésus dans son serment sur la montagne, selon Saint Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, et de tendre l'autre joue lorsque on nous frappe, retenir l'impulsion de défendre de nos propres droits et propriétés dans les cours de justice humaine, tant que nous n'aimons pas véritablement nos ennemis, bénissons ceux qui nous maudissent, rendant le bien à ceux qui nous haïssent et priant pour eux bien qu'ils nous persécutent, eh bien nous ne pourrons comprendre le message de la vie profonde dans l'esprit. L'homme doit avoir pour objectif central l'engagement. S'il ne renonce pas à lui-même et fait de Christ son intérêt principal, il met alors tout le reste à sa place, les biens, la position, la famille, la carrière, les affaires et même l'œuvre religieuse. Par conséquent, Jésus dit « Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, jusqu'à ce que Christ remplace en nous l'ego, Galates chapitre 2, verset 20, eh bien nous faisons d'un intérêt personnel le centre de notre vie. Voyez-vous, calculer la dépense et prendre sa croix, c'est parfois mal compris. La Bible dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Saint Luc, chapitre 14, versets 27 et 28. Donc, nul ne fait un engagement total dans, sans d'abord calculer. Il faut d'abord calculer le prix et le payer volontiers, si on peut. Car on ne peut faire un engagement total sans savoir, vraiment savoir, ce que c'est. Voyez, voyez-vous, beaucoup d'entre nous pensent l'avoir fait jusqu'à ce qu'ils apprennent la vérité naturelle ou la véritable nature que représente l'adhésion à Christ. Je répète, beaucoup pensent l'avoir fait jusqu'à ce qu'ils apprennent la véritable nature de l'adhésion à Christ. Et après quoi ? Ils considèrent qu'ils ont en réalité, qu'ils ont suivi non pas Jésus, mais qu'ils ont suivi quelques créations humaines de systèmes religieux, de dénominations, d'enseignements bibliques populaires ou de mouvements religieux. Être disciple de Jésus, c'est suivre le précédent chemin, c'est de presser pour entrer dans la vie profonde, dans l'esprit. C'est comme Christ nous le dit en Saint-Luc, chapitre 14, versets 27 et 28, c'est de calculer le prix et de prendre sa croix. Donc, choisir d'être disciple, c'est porter sa croix et suivre Jésus. Porter sa croix n'est pas ce que la plupart des chrétiens ont été amenés à croire. Ce n'est pas accepter la maladie ou accepter la souffrance comme une croix à porter, ni voir jusqu'à quel point on peut vraiment souffrir sans recourir à aucune drogue. Nos souffrances et nos infirmités ont déjà été portés par le Christ sur la croix, selon Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5, et Saint Matthieu chapitre 8, versets 16 et 17. Et nous devons nous approprier par la foi la guérison qui nous est offerte dans l'expiation. Notre croix ne peut être la maladie et la souffrance, ou ce serait supposé l'insuffisance de sa croix et un besoin d'ajouter nos œuvres à celles de Christ. Notre croix n'est pas un mari ou une femme alcoolique que nous devons supporter pour le bien-être de nos enfants, ni un employeur beaucoup trop exigeant, ni la félonie de notre voisin. Porter sa croix, ce n'est pas perdre un fils dans une guerre aveugle, ni lutter pour finir les fins de mois à cause du prix très élevé de la vie. Ce n'est pas dévouer sa vie à un service chrétien à plein temps, ni abandonner une carrière qui pourrait être incompatible avec l'engagement à Christ. Qu'est-ce donc vraiment porter sa croix et suivre Jésus? Eh bien, pour répondre à cette question, nous devons en poser une autre. Que font les hommes avec une croix quand ils la soulèvent? Que sont-ils censés de faire? La porter? Ou aller vraiment? Ou aller carrément? Oui. Donc Jésus, voyez, avec sa croix, eh bien c'est donc là qu'il nous dit de le suivre. Quand nous nous demandons où aller avec Jésus, avec sa croix, et je répète, c'est là qu'il nous dit de le suivre vraiment. Et quiconque, a-t-il dit, ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut donc être mon disciple. Porter sa croix, cela ne signifie pas une chose pour Jésus et une autre différente pour nous. Ce que cela signifie pour lui, souffrance et mort au calvaire, et également tout cela est vrai pour nous. Les croix ne sont pas uniquement des symboles ou des ornements d'église. Une croix est faite pour mourir. Une croix est faite pour mourir. Par conséquent, Jésus nous avertit de ne pas soulever notre croix avant de nous décider à mourir. Aujourd'hui, la croix ne signifie plus ce qu'elle signifiait au temps de Jésus. Elle est devenue un bel objet et même une attraction. Elle est devenue un ornement sur un clocher d'église ou quelque chose que l'on porte autour de son cou, une jolie image sur la couverture d'une Bible. Mais la croix, dans le message de Jésus, cela représente un instrument de souffrance et de mort. Ça, c'est tout autre chose. Donc, la croix est une voie qui est choisie délibérément. Nul ne peut choisir fortuitement la mort et donc personne ne va se faire crucifier accidentellement dans ce dernier mouvement de Dieu. Le chemin vers la vie profonde, c'est la crucifixion. C'est une voie de problèmes, de tribulations, d'épreuves et d'affinement. C'est la voie désignée aux disciples, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 à 4, car c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, selon Actes, chapitre 4, verset 22. Il n'est donc pas question de trouver un chemin vers la vie profonde qui ne passera pas par les tribulations, car sans épreuve, on marcherait dans le mauvais chemin. Aux chrétiens craintifs et dorlotés de ce siècle qui plaident, mais voyons, n'y a-t-il pas un chemin un peu plus aisé? Eh bien, Jésus répond, c'est une voie de tribulation. Bénis donc ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Les afflictions et les épreuves ne sont pas des obstacles à éviter à tout prix, ce sont des voies vers le royaume. Jésus n'a jamais dit à ses disciples de chercher à fuir les épreuves, sinon il ne les aurait pas adressées au ciel immédiatement après la conversion, car il a dit, écoutez bien, vous aurez des tribulations dans le monde, dans ce monde actuel. Les disciples sont donc ceux qui ont renoncé jusqu'à la mort à leur vie, et cela par la crucifixion de l'ego, de mon ego, qui ont cessé leur quête d'un chemin plus facile pour entrer dans le royaume de Dieu, et qui en sont venus à voir que c'est l'endurance à l'épreuve et non la fuite qui est le chemin qui mènera à la vie profonde, qui est le chemin qui va mener à la vie profonde. Alléluia. Les disciples sont donc ceux qui ont calculé tout le coup et qui ont pris leur croix et qui, avec l'apôtre Paul, veulent connaître la communion de ses souffrances en devenant conformes à lui, à Jésus, dans sa mort. Ceux-là seuls sont ses disciples et ceux-là seuls seront amenés à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Chers amis, nous allons terminer maintenant, si vous le voulez bien, par la prière. Mais vous savez, ce n'est pas cette prière qui est importante, c'est votre prière toute simple, avec quelques mots seulement, qui viennent de votre cœur, qui seront de beaucoup meilleurs que la prière que je vais vous soumettre comme guide pour vous aider. Que chacun fasse donc cette prière pour lui-même, pour elle-même, personnellement. Dieu notre Père, nous venons à toi dans le saint nom de Jésus-Christ. Éclaire-moi de l'éclat de la lumière intérieure et chasse de la demeure de mon cœur les pensées qui te déshonorent. Réprime tous les égarements et brise les tentations qui me font honte. Mets en fuite ces fautes maudites, ces convoitises séductrices, et qu'alors par ta force la paix se fasse, et que dans le temple sacré d'une conscience purifiée retentissent à ta louange les plus riches accords. Fais luire ta lumière et ta vérité pour qu'elle éclaire la terre. Je ne suis moi-même qu'une terre stérile et vide tant que tu ne m'as pas illuminé. D'en haut, répands ta grâce, verse sur mon cœur une céleste rosée, ordonne aux sources de la vie de venir abreuver mon être tout entier. Relève mon esprit écrasé sous le poids de ses péchés. Transporte au ciel mes désirs pour qu'ayant goûté la saveur de la suprême félicité, je sois honteux de mes terrestres pensées. Enlève-moi, arrache-moi aux fugitives consolations des créatures, puisque rien de créé ne peut satisfaire mes aspirations, m'apaiser ni me consoler. Unis-moi à toi seul par l'indissoluble lien de l'amour, car toi seul peux rassasier celui qui t'aime, et sans toi, tout n'est que vanité des vanités. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et à chaque instant, vous pouvez réécouter certains passages d'une telle étude parce que notre mémoire, surtout la mienne, à mon très grand âge, me joue parfois des petits tours. Alors, n'hésitez pas. C'est aussi une question d'humilité. Oui, c'est le contraire de l'orgueil qui nous dit « Moi, je sais tout, j'ai une mémoire d'éléphant, je me souviens du premier coup. » Un cher serviteur de Dieu me disait un jour, « Oh, il y a 50 ans de cela, puisque je suis très âgé. » Il me disait, moi j'ai jamais besoin d'étudier quoi que ce soit pour donner une série d'études bibliques à n'importe où ou une évangélisation. Je peux simplement monter sur l'estrade et le Saint-Esprit me remplit la bouche. Je veux bien le croire, ça existe. Mais entre nous, je ne crois pas que ce soit très courant. Je ne le crois pas. Ça peut, mais je suis un peu dubitatif. Moi, personnellement, oh là là, je dois étudier les textes, de bien me concentrer, de prier beaucoup avant de me lancer, comme maintenant. parce que par moi-même, je n'y arriverai pas tellement, voire peut-être même pas du tout, va savoir. Chers amis, nous sommes tous différents. Chacun a des capacités différentes. Et vous, qui avez fait, la plupart d'entre vous, 3 fois plus d'écoles et d'études que moi, je ne dis pas ça par hasard, parce que si vous connaissiez mon enfance, vous pourriez le comprendre un peu mieux. Donc, voyez-vous, si vous avez eu le bonheur, on dit parfois la chance, eh bien, d'avoir des parents qui vous ont permis d'étudier, de faire des hautes écoles, pourquoi pas utiliser vos connaissances pour le Seigneur, pour le servir, car vous pourrez le servir 10 fois mieux que moi. Ah oui, ça c'est vrai, totalement vrai. Voyez, je ne dis pas cela par hasard. Alors, n'attendez pas le grand âge que j'ai pour vous donner totalement comme disciple, devenir ses disciples à lui, pour le servir. Car les temps que nous vivons sont les temps de la fin. Je dis non plus cela par hasard. Le temps de la grâce est terminé. Et le temps du jugement a commencé. Vous verrez, bien sûr, on vous dira que c'est uniquement le changement du climat qui fait ça. Mais c'est l'être humain qui est fautif de tout cela, et Dieu l'a permis. Il y aura des hurricanes, des typhons terribles, des tremblements de terre de plus en plus, des catastrophes sans arrêt, jusqu'au point où l'être humain va blasphémer contre Dieu. Nous y arrivons assez rapidement. Il y a des pays, voyez-vous, qui ont dicté des lois, proclamé des lois, comme quoi que l'homosexualité est une bénédiction. J'avais lu un truc épouvantable un coup, quelque chose de tellement révoltant que si je retrouve, je vous le relirai. C'était dans un journal quotidien, hein. C'est pas quelque chose que je me permettrais d'inventer, que l'homosexualité était une bénédiction des temps illuminés actuels. Illuminés, oui. Oui, alors là, j'en doute un peu. Alors, les mariages homosexuels. Il y a, par exemple, une personnalité, on appelle ça responsable d'une mairie en France. Le maire, c'est le masculin. La mère, je ne sais pas si on dit comme ça, pour le féminin. Eh bien, elle a dit que ses convictions ne lui permettaient pas de marier les homosexuels. Eh bien, elle a été dédiée de ses fonctions politiques et même menacée de prison et surtout d'une assez importante amende. Voyez, nous sommes vraiment à la fin et au commencement des persécutions. Ça commence. Vous verrez. Alors, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série, parce que ça continue. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, mes très chers amis.